Bonjour à toutes, bonjour à tous. Serge Bounig du groupe Tislet de l'Académie d'Orléans-Tours vous accueille pour une 7e émission des souris et des lettres. Celle-ci est dédiée à notre collègue et ami Christian Perrier. Comme de coutume, cette émission est parrainée par Madame Pinsard, IPR de lettres, et elle est pilotée avec passion et brio par Adeline Buisson et Philippe Godiveau. Vous aurez aussi l'occasion d'écouter les interventions d'Anne Burel, d'Angélique et Baptiste Voisin et d'écouter un enregistrement de Jordan proposé par notre amie Marie Pourriot. La réalisation technique est entre les mains expertes de Christelle Delas avec les moyens offerts par le CRDP d'Orléans. J'ai de plus le plaisir et l'honneur de vous annoncer la venue à ce micro de Monsieur Simolino, mon proviseur, et surtout celui du lycée Charles Péguy d'Orléans.
Les souris et les lettres.
Souvenez-vous, c'était lors de notre précédente émission du 13 avril dernier. Nous avions commencé à réfléchir ensemble à un vaste sujet. Comment mieux construire une culture littéraire avec les TIS ? Mais face à l'ampleur du champ offert par cette problématique, nous avions limité celle-ci au domaine des images. Aujourd'hui, notre équipe remet tout son cœur à l'ouvrage en se mobilisant sur le cas précis de l'utilisation des sons dans la construction de cette culture littéraire. Cela à travers un certain nombre de projets concrets menés par les divers intervenants dans leur classe. Et nous-mêmes, à la web radio, n'œuvrons-nous pas à notre modeste échelle en vous livrant ces témoignages et nos réflexions à l'édification d'une telle culture numérique. Alors, chers auditeurs, réglez le volume de votre ordinateur ou fixez vos écouteurs pour une nouvelle aventure radiophonique en notre compagnie. Et toujours à l'écoute des évolutions les plus récentes de cette culture qui nous occupera au cours de l'émission, Adeline Buisson nous donne, sans langue de bois, son point de vue sur l'avenir du livre papier et du livre numérique. Si vous n'avez pas peur d'un zeste de polémique, ouvrez toutes grandes vos oreilles pour écouter son édito.
Je voudrais répondre aujourd'hui, à retardement certes, à certaines questions qui m'ont été posées en formation. Oui, j'ai un ordinateur à la maison et pour être honnête, j'en ai même deux. Oui, je passe du temps sur Internet, j'aime naviguer virtuellement dans les musées du monde grâce à Google Art Project. Je communique beaucoup par mail, j'ai un TBI dans ma salle, j'ai un profil Facebook. Mais avant toute chose, je suis une enseignante de lettres. Vous pouvez bien fouiller dans mon sac, vous y trouverez immanquablement un, voire deux bouquins et un nombre considérable d'autres affaires que je ne nommerai pas ici. Les évolutions font peur. Celle du livre papier n'échappe pas à la règle. Le déferlement du numérique sonne-t-il le glas du papier ? Umberto Eco et Jean-Claude Carrière en ont débattu dans leur excellent ouvrage d'échange « Faut-il abandonner les livres ?». La conclusion du PNP de novembre dernier à Paris sur les métamorphoses du livre a été assumée par Jean-Claude Carrière qui tente justement d'apaiser les angoisses.
On ne peut plus regarder un CD-ROM des années 90, on ne peut plus consulter un logiciel vieux de 15 ans, mais s'il est imprimé en français, nous pouvons toujours lire un incunable du 15e siècle. Il y a là une permanence que, pour l'instant, le numérique ne nous offre pas. Umberto Eco aime répéter, en effet, que le livre est un objet en soi parfait, comme une cuillère ou un marteau, dit-il, ou une roue. Il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui d'inventer une nouvelle cuillère. Et pourtant, il se remplace. Moi, j'ajoute, beaucoup plus prudent qu'Umberto, pour le moment en tout cas, il n'y a rien de plus éphémère que les supports durables, pour le moment.
On peut donc bien à la fois vouer un culte à l'objet livre et tirer profit du numérique. Ce n'est pas antithétique. Cessons peut-être de toujours voir les choses en termes d'exclusion. Pensons plutôt à l'extraordinaire complémentarité de ces objets. Quand je suis en vacances, par exemple, j'achète le journal. Toutefois, si notre cher collègue Christophe Poupé, qui était présent à nos côtés lors de notre précédente émission, se décidait à me donner son iPad, je crois que je lirais bien volontiers les titres du jour sur tablette.
Oh Adeline, comme tu vas vite en besogne. Je croyais être le premier sur les rangs, car j'ai cru voir sur la bibliothèque virtuelle de la tablette de Christophe quelques titres que je consulterais volontiers. Et je crois que je ne me contenterai pas d'en lire le texte. mais j'en agrandirais bien les images fixes, j'en visionnerais les compléments animés et j'en écouterais certains passages enregistrés avec des voix de grands acteurs dont j'admire la diction et l'éloquence. Pas de chance, Christophe a déjà rangé sa tablette. Bonbon. Reprenons plus sérieusement le cours de cette émission.
Les souris et les
On associe volontiers les tisses à un outil froid, en contradiction avec l'expression de la sensibilité littéraire. Je voudrais montrer, en rapportant certaines étapes d'une séquence élaborée l'an dernier pour l'une de mes classes de lycée en seconde, qu'il n'en est rien, bien au contraire. Ce sera donc le point de départ de notre rubrique « Le sujet du jour ». Au cours de l'année scolaire 2009-2010, dans le cadre de l'objet d'étude portant sur un mouvement littéraire et culturel, je choisis d'aborder une séquence centrée sur la sensibilité romantique. Dans ce cadre, l'analyse des textes littéraires est associée à celle d'images et de sons. Comme de nombreux collègues qui font étudier le romantisme, j'ai tout d'abord recours à des supports picturaux. Je demande aux élèves de rechercher sur Internet un tableau de l'époque romantique adapté au passage étudié. Cette confrontation peut se faire en classe grâce à un logiciel comme PowerPoint ou grâce au TBI. Avec ces outils, on peut aisément projeter l'image et le texte sur un même écran et stimuler une participation active. Lors de cette séquence, la confrontation la plus riche est réalisée lorsqu'un élève suggère d'illustrer un extrait du chapitre 10 de la première partie du Rouge et le Noir à l'aide du fameux tableau de Gaspard Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages.
Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes roches et puis se remettait à monter. Bientôt, par un étroit sentier à peine marqué, et qui sert seulement au gardien des chèvres, il se trouva debout sur un roc immense et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire. Elle lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme.
Cette confrontation est d'autant plus fructueuse que peu à peu, les élèves ont l'impression que les deux œuvres s'éclairent mutuellement. Jusqu'au moment où l'un d'entre eux émet cette remarque. Quand on observe la profondeur du paysage de montagne à l'arrière-plan du tableau, on a l'impression de voir le silence décrit dans le texte. Grâce à la recherche menée, cet élève a donc su s'imprégner de la sensibilité romantique présente dans Le Rouge et le Noir et la communiquer à ses camarades. Et ainsi, peu à peu, de la sensibilité aux choses vues, on est passé à la sollicitation des perceptions auditives. C'est pourquoi la classe a pu aborder dès la séance suivante le lyrisme romantique, et cela grâce à l'étude du poème « Fantaisie » de Gérard de Nerval.
Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Webre. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets.
Après l'écoute collective d'une lecture de ce poème donné par Alain Cuny et proposé sur un site web, l'étude menée en classe permet d'associer immédiatement l'expression des sentiments nostalgiques du poète à la dimension musicale de son œuvre, révélée par le vocabulaire employé, par la cadence de ses vers, mais aussi par la référence à trois musiciens particulièrement appréciés des romantiques. Pour éclairer l'ensemble de la classe sur la présence de ces musiciens dans le texte, un élève est chargé de se détacher du groupe et d'aller chercher en autonomie des renseignements grâce à l'ordinateur de notre salle relié à Internet. Lorsqu'il rapporte le fruit de son travail, il s'avère que plusieurs élèves connaissent ces compositeurs. Certains d'entre eux maîtrisent suffisamment bien un instrument pour proposer au reste du groupe un concert au cours duquel ils souhaitent faire découvrir la sensibilité romantique grâce à leur propre interprétation. Ainsi, du texte poétique écouté et analysé, va-t-on passer grâce à eux à la découverte des sources mêmes du lyrisme, la musique. Pour que ces élèves accèdent rapidement aux partitions, je leur conseille de les imprimer gratuitement par le biais d'International Music Score Library Project, un site lié à Wikipédia, qui qui propose des documents totalement libres de droit. Le concert a lieu un matin à 8 heures dans la salle de musique. Monsieur Simolino, proviseur du lycée Charles Péguy, est invité pour l'occasion. Un diaporama PowerPoint permet, au fur et à mesure de l'audition des pièces musicales, de découvrir l'origine et la sensibilité particulière des différents compositeurs. Se succèdent des interprétations en duo ou en solo, au violon, à la guitare et au piano, dans des œuvres de Paganini, Schumann, Chopin et Beethoven. On peut retrouver un témoignage visuel de cette séance sur le site du lycée Charles Péguy. Les élèves ont particulièrement soigné leur interprétation pour transmettre les émotions contenues dans leurs morceaux à leurs camarades. Ceci montre une attention et un respect extrême, même ceux qui, habituellement, ont du mal à se concentrer durant une heure de cours. Cette émotion est particulièrement vive à l'occasion d'une interprétation au violon. Après avoir évoqué l'âme de cet instrument, ce petit cylindre qui permet la vibration du son et qui souligne l'émotion contenue dans les œuvres romantiques, nous parvenons à une manière de définition du lyrisme qui serait l'expression de la musique de l'âme. Ces moments exceptionnels marquent la scolarité d'un élève comme la carrière d'un professeur. Cependant, ce dernier ne perd jamais complètement de vue ses objectifs pédagogiques. La fin de la séquence consacrée au romantisme doit être organisée autour de la rédaction d'un commentaire. Je choisis, dans la continuité des travaux précédents, le texte d'un air de l'opéra Werther de Massenet, intitulé « Traduire, pourquoi me réveiller ?». La préparation collective en classe du devoir, qui sera rédigée à la maison, permet de rappeler la dimension européenne de la sensibilité romantique, car le texte est extrait du livret d'un opéra français, qui a comme héros un personnage de la littérature allemande, qui lui-même invoque au début de son air le barde écossais Ossian. Certains élèves me signalent même, au cours du texte, qu'ils retrouvent le voyageur, le fameux Wanderer, du tableau de Friedrich.
Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ? Demain, dans le vallon, viendra le voyageur, se souvenant de ma gloire première. Et ses yeux, vainement, chercheront ma splendeur. Ils ne trouveront plus que deuil et que misère. Hélas ! Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ?
L'analyse de la sensibilité romantique d'un tel texte se construit autour de motifs et de registres valorisant les émotions du personnage. Pour aider les élèves à concevoir leurs commentaires, je souhaite leur montrer comment le texte et la musique s'enrichissent mutuellement, comme précédemment le roman et le tableau. Je leur suggère donc d'écouter lors de la préparation à la maison, sur Internet, la version célèbre du ténor espagnol Alfredo Cross. Le lien que je leur indique permet de visualiser sur leur écran chaque vers du texte tout en écoutant simultanément l'interprétation chantée. La correction des copies me convainc que la séance musicale précédente a stimulé les facultés sensibles de mes élèves. Mais l'une d'entre elles va au-delà de mes attentes en voulant associer au texte étudié non seulement la musique mais aussi l'image. Elle me propose donc un autre lien Internet permettant de suivre la captation d'un spectacle au cours duquel le jeune ténor allemand Jonas Kaufmann interprète Werther. L'élève explique à ses camarades, après la diffusion de ce petit film, que celui-ci lui a permis d'être attentive à la voix et à la musique orchestrale, mais en plus, grâce au décor et au costume qui situent la scène dans le temps, grâce à la jeunesse, à la prestance et à l'engagement physique du chanteur, elle a compris que lorsque le texte romantique s'incarne, il parvient vraiment à toucher la sensibilité d'un jeune de notre époque.
De la musique de l'âme, toucher un jeune de notre temps, Les deux expressions que vient de nous tendre M. Bounik rappellent les termes de l'enjeu. Au cours d'une période longue qui succédait à la Seconde Guerre mondiale, le travail de l'école s'est déployé sur un arrière-plan de consensus social. Les valeurs culturelles à transmettre étaient reconnues de tous, collectivement partagées, même si elles n'étaient pas toujours accessibles à certains élèves. Aujourd'hui, cette connivence est à construire ou à reconstruire pour tisser une toile de fond qui fasse sens, notamment en prenant appui sur la place qu'occupe aujourd'hui la dimension sonore dans la société. Lorsqu'on parcourt les programmes de lettres et les dispositifs en vigueur, on voit que l'école s'emploie à cette construction culturelle. Au collège, on citera plus particulièrement l'instauration du socle commun et à l'intérieur de celui-ci, la compétence 5, construire une culture humaniste, et les compétences 6 et 7 qui visent l'initiative et l'autonomie. L'introduction d'un enseignement d'histoire des arts également, qui demande aux élèves de fédérer savoirs et connaissances à travers les disciplines. Au lycée, on peut distinguer dans les programmes de lettres l'accent mis sur la notion de mouvement littéraire et culturel, nous venons de le voir, et l'introduction également d'un enseignement d'exploration, littérature et société, enfin des démarches comme celle des TPE, travaux personnels encadrés, qui contribuent comme au collège au travail de circulation. On mesure donc qu'un enjeu de cette nature ne peut être atteint par le seul truchement du cours et qu'il demande un projet et une démarche de projet. Alors, monsieur le proviseur, vous avez assisté à cette présentation. Quel témoignage pourriez-vous donner ?
Alors, ce que j'ai constaté pour ma part, eh bien, après avoir assisté à ce cours, c'est tout d'abord, je dirais, le sérieux des élèves, la qualité d'écoute, mais au-delà de, j'allais dire, de l'ambiance du cours, j'ai pu mesurer aussi l'investissement des élèves, et c'est ça qui m'a frappé essentiellement à travers, par exemple, le respect qu'ils manifestaient pour les interprétations musicales de leurs camarades, mais aussi à travers leur participation. Ça m'a permis de mesurer également la qualité des interventions des élèves, la pertinence de leurs réponses, puis aussi l'originalité des propositions qu'ils faisaient sur les sollicitations de leurs professeurs. Et donc, pour conclure, je dirais, l'impression d'avoir assisté à une séquence où il y avait une totale adéquation entre, d'un côté, les objectifs et la construction du cours, et de l'autre, l'intérêt, l'investissement des élèves et la manière dont ils ont été actifs tout au long de la séquence.
Un projet de la sorte ne peut pas réussir sans un accompagnement de l'établissement. Alors, comment le chef d'accomplissement, le chef d'établissement accompagne-t-il un projet de cette nature ?
Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas uniquement du chef d'établissement, je dirais l'équipe de direction. Mais le fait est que l'équipe de direction joue un rôle important. Dans un premier temps, la première chose à faire, je dirais, c'est la manière d'accueillir le projet. Ça me paraît très important parce que le professeur ou l'équipe arrive avec un projet qui a suscité des désirs, des envies, peut-être déjà du travail. Et je dirais le premier rôle du chef d'établissement, de l'équipe de direction, c'est de soutenir ce projet, de l'accueillir et puis de le valoriser. Alors, bien entendu, dans un premier temps, en apportant, je dirais, le minimum, c'est-à-dire le soutien matériel, l'aide au fonctionnement, l'aide à la mise en place, mais aussi l'accompagnement sur toute la durée de ce projet, parce qu'on a parfois des projets ambitieux, heureusement, et puis sur des durées assez longues. Mais d'une certaine manière, ça ne suffit pas. Il faut aussi penser que le projet, on va pouvoir le soutenir d'une autre manière quand on est une équipe de direction. On va pouvoir travailler aux côtés du professeur ou de l'équipe à sa pérennisation. Il va falloir aussi peut-être songer d'une certaine manière à sa dissémination, comment le projet va pouvoir essaimer dans l'établissement, comment il va pouvoir intéresser d'autres collègues, et puis penser également à la manière dont on va l'ancrer dans le projet d'établissement et dont on va communiquer aussi ce projet, communiquer autour de ce projet, c'est-à-dire que, eh bien, il faut que les équipes de direction soient un peu, se sentent un peu les porteuses, en quelque sorte, et les communicantes autour des projets des professeurs. Ça me paraît également important.
L'établissement en retire-t-il un bénéfice?
Alors, je dirais que le bénéfice pour l'établissement, c'est avant tout le bénéfice pour les élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut d'ailleurs, me semble-t-il, pour l'utilisation des TIS en général. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que avant d'utiliser tel ou tel moyen pédagogique, le professeur et peut-être dans le meilleur des cas les élèves vont bâtir des hypothèses, vont bâtir des problématiques. Il va ensuite y avoir la séquence de travail et de recherche. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est par exemple une fois qu'on a trouvé de la documentation, une fois qu'on a amassé un certain nombre d'éléments, les liens que l'on va réussir à construire entre tous ces éléments, et bref, le travail d'argumentation qui va commencer à ce moment-là. Et là, je trouve qu'on est tout à fait dans un des aspects fondamentaux, dans une des missions fondamentales de l'école, qui est à la fois de l'ordre du pédagogique et de l'éducatif, parce que on va progressivement accompagner les élèves sur un travail qui est à la fois un travail critique et un travail de construction de soi et de construction des compétences. Et c'est à cet égard que, effectivement, les TIS sont un moyen privilégié de construire à la fois ces compétences et de construire la personnalité des élèves.
Vous me tendez un élément de conclusion. L'IPR de lettres voudrait en effet, pour conclure, mettre l'accent sur l'aspect stimulant de ce projet qui allie littérature et musique. Si depuis longtemps, en effet, les programmes de lettres se sont ouverts à la peinture et de manière plus générale à l'image, la présence de la musique reste encore très discrète dans la relation à la littérature, alors que nous connaissons tous la sensibilité parfois envahissante et exacerbée de la dimension sonore dans la culture des élèves.
Les souris et les lettres.
À travers la rubrique précédente, on a bien compris que l'utilisation des sons dans la culture des élèves était essentielle lorsqu'elle permettait l'épanouissement de leur sensibilité artistique. Elle devient sans doute encore plus déterminante lorsque nous autres enseignants avons affaire à des élèves confrontés à de lourdes difficultés scolaires, voire à des handicaps du langage. Dans notre équipe, Philippe Godiveau et Marie Pourriot ont acquis une expérience reconnue dans ce domaine. Il est donc nécessaire de se référer à eux, car un jour ou l'autre, chacun d'entre nous sera placé dans ce type de situation pédagogique. Alors Philippe, comment souhaites-tu nous faire partager ton expérience aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ces enfants qui souffrent très précisément de troubles spécifiques du langage, ce qu'on appelle souvent les 10. Ceux qui souffrent de ce problème se trouvent dans l'impossibilité, lorsque ce problème est sévère, de prendre par écrit un cours ou de le mémoriser comme le feraient les autres. De ce fait, et en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, eh bien, les enseignants doivent mettre en place une pédagogie différenciée fondée sur des modes alternatifs d'apprentissage. J'ai déjà évoqué à ce micro le recours aux cartes heuristiques et aujourd'hui j'aimerais aborder la création et l'utilisation de fichiers son dans différentes situations qui sont notre quotidien en classe de lettres. Tout d'abord, la leçon de grammaire et le cours qui la développe ne peuvent pas être l'objet d'un support écrit de type grand 1, petit 1, petit a, car il présenterait les connaissances dans un processus linéaire. Et en premier lieu, pour prendre un tel cours, cela impose un effort d'écriture pour ces enfants qui, s'il est mené à bien déjà, parasitera complètement la compréhension du cours compte tenu des efforts trop importants qu'il demandera à l'élève. Par ailleurs, ce mode linéaire, mentionné précédemment, ne sera pas forcément porteur de sens pour un élève qui souffre de ce type de handicap. Comme je le rappelais il y a quelques secondes, le professeur peut alors avoir recours à la carte heuristique, mais cette dernière aura un sens, certes pour l'élève qui l'aura conçue, mais quid de ses parents, ou de l'élève qui sera absent ce jour-là. C'est ici que le fichier son viendra compléter le support écrit. La mise en œuvre est assez simple, puisque désormais la plupart des MP3 vendus dans le commerce sont dotés d'une fonction dictaphone. Il suffit alors au professeur de le déposer sur son bureau et d'enregistrer son cours pour ensuite le mettre à disposition de la classe sur le cahier de texte en ligne. S'il juge que le fichier produit est trop long ou trop lourd pour nos serveurs, il peut aisément supprimer certains passages à l'aide d'un petit logiciel gratuit que beaucoup connaissent qui s'appelle Audacity et qui est vraiment, je vous l'assure, très simple d'utilisation. Alors soyons clairs, ici pas de démagogie, pas de facilité en cédant au charme des sirènes des TIS, mais une pédagogie alternative permettant aux élèves un autre mode d'apprentissage où ils peuvent arrêter le propos du professeur, revenir en arrière et écouter au gré de leurs besoins.
Et Philippe, si on fait ça pour tous les cours ?
Ah non, là Serge, non, ce n'est pas possible. Il faudra bien choisir sur quel cours on fera porter cette complémentarité écrit-son. Car en fait, une généralisation trop importante créerait une surcharge cognitive pour l'élève et une surcharge aussi de ce travail, les deux s'avérant totalement contre-productifs. Deuxième point que j'aimerais aborder, la lecture cursive. Elle aussi, elle pose problème pour ses élèves. Et d'ailleurs, je pourrais généraliser mon propos pour les élèves qui sont en difficulté d'accès au sens. Car ils n'ont qu'une très faible mémoire de travail. Alors pour définir cette notion, je renvoie nos auditeurs vers notre document annexe. Vous avez un petit lien qui vous permettra d'en savoir plus. L'accès au sens, disais-je, est assez difficile. Le professeur peut alors décider, une fois de plus, d'avoir recours à des fichiers audio pour recréer ce que nous connaissons dans le commerce, des livres audio. Dans ce cas, la lecture se fait après avoir écouté le passage, en mode décalé, et le fichier est une sorte, permettez-moi cette métaphore, de béquille pour aider l'élève à compenser son handicap.
Oui, mais dans ce cas-là, l'élève ne risque-t-il pas de céder à la facilité et de se limiter à une simple écoute du texte ?
Comme le veut la formule, merci de ta question. Ça va me permettre de vous faire remarquer deux choses. Tout d'abord, c'est une méthode qui nécessite des explications auprès des élèves afin justement qu'ils ne cèdent pas à la facilité et se contentent d'écouter le son sans mener de réelle activité de lecture. Et par ailleurs, même si une béquille pédagogique est proposée, l'objectif de la lecture cursive reste l'autonomie. Et cette démarche pédagogique doit s'inscrire dans une progression annuelle où le nombre de pages données à entendre va aller décroissant. Troisième utilisation que j'aimerais aborder, le recours à la voix de synthèse, c'est-à-dire à une application qui lira à l'élève le texte affiché ou le texte qu'il aura lui-même produit. Alors il existe en ce domaine un grand nombre de produits plus ou moins aboutis, et malheureusement plus ou moins onéreux, et vous en retrouverez une petite liste dans notre document complémentaire.
Mais Philippe, pourquoi recourir à la voix de synthèse ?
Tout d'abord parce que l'enseignant ne peut matériellement tout enregistrer, et que le souci principal reste de faciliter l'accès au sens et donc à l'autonomie pour l'élève. La synthèse vocale va l'aider à découvrir un texte au CDI ou encore plus à la maison. Cette accession au sens qui sera facilitée, je ne doute pas que ce soit un bon levier pour susciter l'envie de lire, puisque finalement le décodage ne sera plus un frein. Mais au-delà, le recours à la voix de synthèse peut jouer un tout autre rôle dans le domaine de l'écriture. En effet, une fois son texte écrit, l'élève qui souffre de troubles spécifiques du langage ne peut mener une relecture efficace, car lorsqu'il relit une erreur de langue, il prononce ou subvocalise la forme attendue et non celle qui apparaît réellement sur le papier. De ce fait, il ne peut identifier les erreurs et du coup encore moins les corriger. C'est ici que la synthèse vocale peut intervenir comme auxiliaire de relecture. L'application lit ce qui est véritablement écrit et propose à l'élève une opportunité de corriger son texte.
Philippe, peut-on aussi imaginer une autre application du son comme levier pour la pratique d'écriture ?
Ah, en effet, si on veut rédiger un travail écrit reposant sur l'imagination, c'est une tâche complexe qui peut grosso modo se diviser en deux. D'un côté, concevoir, imaginer ce que l'on va dire dans un premier temps, puis l'écrire noir sur blanc. Or, les élèves qui subissent des troubles spécifiques du langage ne peuvent mener les deux de front, sachant qu'il faut en parallèle prendre en compte les compétences liées à la langue. Il faut alors tenter de passer d'une tâche complexe à deux tâches. La première consistera à enregistrer l'élève ou à ce qu'il s'enregistre avec le logiciel Audacity. Et ainsi dégagé de l'acte d'écriture, il pourra donner libre cours à sa pensée. Une deuxième phase consistera à mettre tout cela par écrit, puis à relire l'ensemble, comme j'en ai parlé précédemment. Soyons une fois de plus bien clairs, l'enseignant ne renonce à aucune compétence, il les dissocie sans les émietter pour pallier les manques de son élève.
Oui, mais franchement, Philippe, comment faire pour concilier tout cela avec la charge de travail quotidienne qui est celle d'un enseignant ?
Nous sommes d'accord et cela appelle ma toute dernière remarque. Pour les enseignants qui se demanderaient comment mettre tout cela en place, eh bien la réponse est simple. Prenez ici ce qui convient aux besoins de vos élèves, allez-y progressivement en assurant des bases stables. Rome ne s'est pas construite en un jour, une pédagogie différenciée face au handicap non plus.
Merci Philippe de tous ces aperçus très précis et constructifs. J'ajoute que nos auditeurs trouveront sur notre site, en complément de ton intervention, un bonus audio réalisé par Marie Pourriot avec son élève Jordan. Un bonus particulièrement instructif et émouvant. Au cours de notre quatrième rubrique intitulée « Il témoigne », nous allons réaliser à nouveau que la musique vocale, en particulier celle de l'opéra, a une place essentielle dans la culture numérique de nos élèves. Mais cette fois, c'est d'une expérience menée en collège que va nous parler une nouvelle venue à ce micro, Angélique Voisin. Elle sera interrogée par Anne Burel.
Alors Angélique, tu as mis en place il y a 4 ans une classe opéra. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, tout à fait. Il s'agissait d'un projet Les Arts au collège. Grâce à une subvention du Conseil général du Cher, j'ai pu faire travailler l'opéra à une classe de 4e. Alors quand je dis travailler, je ne parle pas que de théorie. Bien sûr, les élèves ont dû acquérir certaines connaissances, mais le but premier était qu'ils comprennent la notion de spectacle vivant. Ils ont donc eu la chance de rencontrer un ténor, Jean-Louis Meunier, qui les a fait travailler toute une journée, comme lui le fait avant de chanter. Et ensuite, accompagné de son pianiste, il a chanté juste pour eux. Alors, les élèves étaient à 2 mètres de lui, c'était vraiment un moment très très fort. Ils ont senti toute la puissance de sa voix, ils ont vraiment été très très émus. Ils ont ensuite assisté à un véritable opéra mis en scène à Tours, il s'agissait de Carmen. Et parallèlement à ces rencontres, les élèves ont préparé leur propre spectacle qui mêlait des chants et de la mise en scène théâtralisée de textes littéraires. Ils ont présenté une partie de leur travail à d'autres collégiens et lycéens à la Maison de la Culture de Bourges lors du printemps du théâtre. Alors, c'était vraiment une consécration pour eux. et à la fin de l'année, ils l'ont présenté à la salle municipale de la Guerche. Ils étaient vraiment très très fiers de l'ensemble du travail qu'ils avaient réalisé.
Oui, enfin, les élèves sont toujours fiers de présenter leur travail, présenter un spectacle. Explique-nous en quoi ce sentiment de fierté a eu quelque chose de particulier cette fois-ci.
Parce qu'ils n'étaient pas du tout partants pour travailler l'opéra. Alors, la rencontre avec le ténor a été un moment très très fort, parce que pour eux, l'opéra devenait quelque chose de concret, de vivant. Mais à mon avis, c'est la compréhension des textes qui a été déterminante. On a travaillé sur le thème des gitans et des saltimbanques, et l'expression du besoin de liberté qui est exprimée dans ce thème a vraiment séduit leur esprit adolescent. Ils étaient fiers de deux éléments assez différents en fait. Les idées qu'ils exprimaient leur correspondaient, donc ils se les appropriaient, et c'était vraiment essentiel pour eux de faire corps avec les personnages qu'ils incarnaient. Ce qui m'a le plus surpris en revanche, c'est qu'ils sont devenus très fiers de présenter un travail sur l'opéra, pour lequel au départ ils étaient hostiles. Il n'y avait qu'eux qui avaient travaillé aussi en profondeur au collège sur ce thème, et ils sont devenus très fiers de cette différence et de cette richesse culturelle. De plus, par leur travail, ils ont bien sûr apporté beaucoup de modernité au texte, puisque ce n'étaient plus des simples textes, mais c'était leurs émotions et leur sensibilité qu'ils mettaient en scène. C'était devenu une culture qui leur était vraiment devenue propre et qui a véritablement soudé la classe tout au long de l'année et par la suite.
Qu'est-ce qui a motivé la mise en place d'un tel projet ?
Alors c'est vraiment venu de la spécificité de mon collège qui est à La Guerche sur le Bois dans le Cher et qui est donc est un collège situé en zone rurale. Et une certaine part des élèves reste très éloignée de préoccupations culturelles. Donc je voulais vraiment créer un choc, les brusquer dans leur représentation et partir d'un véritable rejet, mais face à quelque chose bien sûr qu'ils ne connaissaient pas. Je pense que ce travail sur les préjugés, sur nos propres représentations, c'est avant tout une attitude et une compétence à travailler pour chacun de nous.
Et comment as-tu choisi la classe avec laquelle travailler ?
Je ne l'ai pas choisie. On a décidé d'une classe avec ma collègue d'éducation musicale au mois de juin. On ne savait absolument pas quels élèves la composeraient. Alors c'est un pari très intéressant pour nous parce qu'on devait de ce fait partir de leur représentation. Et dans cette classe, il y avait plusieurs élèves assez scolaires pour lesquels l'abord de textes littéraires pose souvent problème. Et cette fois-ci, l'approche des textes littéraires a vraiment fait sens. Il y a même une partie de la classe qui a insisté pour chanter l'air de Carmen, « L'amour est enfant de Bohème ». Alors, on a eu assez peur, parce qu'on trouvait qu'au niveau du chant, c'était un petit peu juste. Mais on n'avait vraiment pas prévu un tel enthousiasme. Et c'est vraiment ce dont tout professeur peut rêver, je pense. Ça a vraiment dépassé nos espérances.
Parle-nous maintenant du travail qui a été effectué en lui-même. Comment as-tu mené à bien ce projet avec une classe entière et donc j'imagine hétérogène ? Comment as-tu travaillé les compétences d'oral avec tous tout en gardant une attitude de pédagogie différenciée et sans négliger le reste du programme de quatrième ?
Alors c'est vraiment ce qui m'a inquiétée toute l'année. Tout d'abord, on n'a pas travaillé sur le projet en continu. Ça aurait été beaucoup trop lourd pour les élèves, comme charge de travail et comme pression. Donc, on travaillait sur ce projet en moyenne une heure par semaine. Le reste du temps de la semaine, nous travaillons en cours de façon beaucoup plus traditionnelle. Mais cette heure de projet, ça a rapidement été vécu par les élèves comme une heure de récréation, dans la mesure où le travail était moins scolaire, car leur approche était beaucoup plus personnelle. Ils avaient un but identifiable, donc ils cherchaient plus facilement à l'atteindre. Pour la différenciation, notamment pour l'oral, ça a vraiment été un pari pour moi. Donc heureusement que mon collège est doté d'une salle informatique configurée en labo de langue. Grâce à cela, les élèves ont pu travailler de façon personnelle sur le logiciel Audacity. Donc ils ont pu tester leurs effets de voix, et avant cela même se familiariser avec leur propre voix, avant de proposer leur interprétation à la classe. Parce que c'est pas facile du tout de s'entendre pour la première fois. Il faut apprivoiser sa propre voix avant de pouvoir la travailler vraiment, c'est-à-dire chercher des effets de hauteur, d'intonation. Si les élèves n'arrivent pas à passer ce cap-là, ils restent au stade de découverte de leur diction, en même temps qu'ils font face aux autres élèves. Donc ils s'occupent plus des réactions de la classe que de leur travail réel. L'approche plus individuelle grâce au logiciel du travail du son a permis, pour moi c'est sûr, un véritable gain de temps, mais surtout une approche très différenciée des objectifs de chacun.
Et aujourd'hui, quel bilan fais-tu de cette expérience ?
Je me rendais absolument pas compte de tout ce que ce travail impliquait pour les élèves, ni pour moi d'ailleurs. J'ai pu recueillir le témoignage d'une ancienne élève, Léa Figueras, qui est aujourd'hui en terminale musicale. Et on sent vraiment la qualité de son investissement au travers de ses propos.
Travailler sur l'opéra n'avait pas du tout intéressé. Au départ, les avis étaient plutôt « gros, l'opéra ». Le déclic a dû se faire quand on a rencontré Jean-Louis Meunier. Le fait de voir un vrai chanteur d'opéra devant nos yeux, de travailler le son, la voix. Au début, c'était des espèces de gymnastique, fallait relâcher son corps, tout d'un coup le tendre, des gestes. En fait, les premiers exercices qu'on a fait n'avaient rien à voir avec la voix, c'est-à-dire qu'on parlait pas forcément, on bougeait plutôt, après il a réinséré la voix, mais il a commencé par nous parler du mécanisme de la voix. Qu'est-ce qui fait que la voix, comment on parle, comment on chante, avant de vraiment entrer dans les exercices. Enfin, déjà, rien que pour moi, ça a changé totalement mon avis sur l'opéra. C'est-à-dire que c'est pas qu'un truc vieillot, c'est même beaucoup plus que ça, c'est physique. C'est physique autant pour le chanteur, autant que pour nous. Parce que même en tant que spectateur, on ressent le son en nous, ça nous touche physiquement. Ce qui compte, c'est au final la puissance de la voix. Avec une télé, on peut pas du tout reproduire les vibrations, la puissance, les envolées lyriques, le fait de mettre la voix sur ces textes. Parce que même quand on lit un texte en classe, ce n'est pas pareil que quand on joue. Et là, dans le cadre de la représentation, je pense que, parce qu'il y avait des textes qui n'étaient pas forcément abordables pour tous, et en final, ils sont passés très très bien, voire même mieux que certains, beaucoup plus faciles. Il y avait des textes d'Aragon, Lorca. Oui, c'était plutôt surprenant dans le sens que c'est pas des textes qu'on aurait étudiés facilement en cours, plutôt des textes qu'on a pour notre culture personnelle, dont on peut parler après, comme dans des études supérieures pour étayer une dissertation, mais dans l'ensemble, dans notre culture personnelle. C'était mieux de le faire en espagnol, c'est-à-dire que le texte tombait bien comme ça en espagnol. Bon, la pièce de Lorca en espagnol aurait été peut-être un peu compliquée. Donc c'était bien de le faire en français, mais oui, un peu d'espagnol, ça permettait, ça illustrait bien. Écoutez, on n'est pas à 100% tendu vers ce qui se passe. On écoute, mais on retient pas forcément parce que c'est... L'expression, c'est ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors que quand on travaille, ça s'inscrit parce qu'il faut relire plusieurs fois. C'est comme un dépaysement, donc... Je vais faire une métaphore, quand on arrive dans une nouvelle ville, on fait plus attention ou par où on passe pour pas se perdre. Et bien là, c'est pareil. Comme c'est un nouveau support, on est tout de suite, ça éveille la curiosité. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Pour pas se tromper, mais c'est pas forcément universel. Mais oui, on fait un effort de plus parce que c'est nouveau, parce qu'on n'est pas habitué, parce que ça sort de l'ordinaire, parce que ça nous demande un effort. À nous-mêmes. Parce qu'on a travaillé ces textes sans les travailler. C'est-à-dire que c'est venu presque inconsciemment. On s'est mis à comprendre, à s'approprier ces textes, je pense, d'une manière plus durable que quand on travaille sur un texte à l'écrit, moralement. Parce qu'on avait un objectif par rapport à ces textes. Et parce que on les vivait, on avait un objectif, on savait que ces textes, on les travaillait dans un but de représentation. Donc au final, on les a travaillés à l'écrit, autant à l'écrit que mentalement, mais surtout oui avec la voix. La voix nous a permis en quelque sorte de l'inscrire en nous. Forcément, ça joue sur notre confiance en nous, en nos capacités, l'émotion. Donc c'est vraiment amusé.
On constate effectivement un impact certain et durable sur les élèves.
Oui, cette expérience leur a vraiment permis de franchir un pas. Pour certains, pour la première fois, ils ont vraiment pris plaisir à apprendre et ils ont pu trouver une relation entre construire un savoir et se construire eux-mêmes, c'est-à-dire en tant que personne. Le passage par le chant, par l'oral, était essentiel parce que cela les poussait à améliorer leur expression personnelle. Ils arrivaient à rendre sensibles leurs émotions. Ils ont compris que la culture n'était pas quelque chose de factice, mais cela permettait de toucher une vraie profondeur de sentiment et une subtilité d'expression.
Merci Angélique pour ce témoignage et aussi pour le bonus que tu as placé sur notre site, qui prouve que la culture ne saurait être négligée dans les apprentissages du collège. Le pilier 5 du socle commun vient d'ailleurs nous le rappeler très utilement. Un tel projet interdisciplinaire, par son caractère exigeant et ambitieux, donne réellement du sens et une ampleur supplémentaire au travail de la classe en cours de français. De la musique avant toute chose, disait le poète. Oui, mais dans leurs usages d'outils ou de documents numériques, les professeurs et les élèves doivent raison garder. Car dans ce domaine, la loi s'impose à tous. C'est ce que vont nous rappeler Baptiste Voisin, Philippe Godiveau et Anne Burel dans leur rubrique consacrée à nos élèves et le réseau. Alors Philippe, comment savoir si un document est utilisable en classe ou non ?
Alors, à la date d'aujourd'hui, le texte de référence est tout simplement le bulletin officiel numéro 5 du 4 février 2010. Alors, cette présentation est un peu ardue, mais les choses peuvent très vite changer en ce domaine. Pour l'instant, ce texte est celui qui fait référence et nos auditeurs trouveront un lien qui les emmènera vers ce texte dans notre document complémentaire.
Très bien, merci Philippe. Prenons, si tu permets, un exemple un peu plus précis. Dans le cadre d'une séquence de troisième sur l'argumentation, je souhaite illustrer la différence entre persuader et convaincre en opposant des spots publicitaires et des extraits de débats politiques. Puis-je enregistrer n'importe quelle émission de télévision pour la diffuser en classe ?
Alors tout d'abord, tout ce que je vais te dire est sous une réserve, mais que tout le monde connaît pratiquement. Il faut bien sûr à chaque fois mentionner le nom de l'auteur et la source. À partir de cela, s'applique ce que l'on appelle désormais l'exception pédagogique. C'est-à-dire que tu peux diffuser en classe ces émissions à des fins exclusives, bien sûr, d'illustration, dit la loi, dans le cadre de ton enseignement. Il faut que le public soit composé majoritairement d'élèves et que ces élèves soient directement concernés par le propos. Et bien sûr, cela exclut strictement toute exploitation commerciale.
Évidemment. Mais imaginons que je souhaite faire étudier une œuvre cinématographique, par exemple dans le cadre d'une séquence sur le fantastique en quatrième. Puis-je utiliser et étudier donc des films enregistrés sur des chaînes de télévision et les faire regarder à mes élèves dans leur intégralité?
Alors, tu vas me permettre de dissocier deux choses, d'un côté la musique et de l'autre côté le cinéma et l'audiovisuel. Pour la musique, sont autorisées la représentation intégrale dans la classe et uniquement à des fins exclusives d'illustration, comme je te le disais tout à l'heure. Pour le cinéma et l'audiovisuel, c'est un peu plus compliqué. En effet, ces œuvres intégrales auront été enregistrées soit en mode hertzien, analogique ou numérique, mais attention, le service doit être non payant.
Alors, soyons clairs, est-ce que tu peux nous rappeler les chaînes de télévision qui sont concernées ?
Alors, pour le mode hertzien qui est en train de disparaître progressivement, nous avions TF1, France 2, France 3, France 5. Arte et M6. En ce qui concerne la TNT, c'est très simple, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, il suffit de prendre toutes les chaînes de la TNT gratuites. Canal+ est aussi envisageable, mais uniquement pour ses émissions en clair. Autrement dit, cela exclut Canal+, les chaînes payantes de la TNT, Canal Satellite et les services de vidéo à la demande.
Donc si j'ai bien compris, cela exclut également les DVD que j'ai pu acheter dans le commerce et que j'ai chez moi. Et en revanche, si j'ai enregistré sur mon enregistreur DVD un film qui est passé à la télévision sur une des chaînes que tu citais tout à l'heure, je peux le diffuser.
Exactement, parce que je rappelle que le fait d'acheter un DVD n'inclut pas les droits. Pour cela, il y a des organismes particuliers comme la DAV. Donc on voit que ce texte n'est pas une avancée totale et radicale, il y a des mutations, mais tout est encore à faire. Néanmoins, tu peux utiliser une bonne vieille VHS ou un DVD acheté dans le commerce, dès lors que tu te limites à des extraits.
Ah, ça m'intéresse, Philippe. Où s'arrête cette notion d'extrait ? Si, par exemple, je passe en plusieurs fois un seul film par extrait que j'étudie, donc là, j'ai le droit.
Ah, je reconnais bien là le petit Gaulois qui veut braver l'interdit. Eh non, la notion d'extrait est très précise. Alors, je reviens encore à dissocier la musique et la vidéo. Pour les enregistrements musicaux, un extrait, c'est une utilisation limitée à 30 secondes. Ou, en tout état de cause, inférieure au dixième de la durée totale de l'œuvre. Si tu avais envie de multiplier les extraits, eh bien tu ne pourrais pas excéder 15% de la durée totale de l'œuvre. Pour l'audiovisuel et le cinéma, l'extrait sera limité à 6 minutes ou, pour le moins, ne pourra pas excéder le dixième de la durée totale de l'œuvre, les 15% étant toujours valables.
Très bien, je te remercie. Donc, pour revenir à ma séquence de quatrième que j'évoquais tout à l'heure, si je choisis d'étudier par exemple le film Les Autres d'Alejandro Amenábar qui dure 1h54. Je ne peux donc que diffuser 11 minutes 40 d'un seul tenant, ou alors, sur l'ensemble de ma séquence, 17 minutes 30 par extrait. Et ce, si je possède personnellement le DVD.
Voilà, tu as tout compris. Hein. Mais je rappellerai juste une chose, c'est que une séquence cinématographique de 10 ou 11 minutes, c'est quelque chose de très long lorsqu'on veut l'étudier dans le détail. Et donc, ça correspond tout à fait à nos besoins.
Excusez-moi de vous interrompre tous les deux, mais donc j'étudie avec mes élèves une œuvre enregistrée sur les chaînes citées plus haut, ou j'étudie quelques extraits dans les limites de la loi. Donc moi maintenant j'ai deux questions. Est-ce que je peux les publier en ressources sur mon cahier de texte en ligne? Et est-ce que je peux les laisser dans le dossier commun de mon réseau d'établissement?
Alors, la réponse est oui, puisque les accords s'ouvrent aux usages numériques. C'est-à-dire que sur ce qu'on appelle techniquement un intranet, tu peux très bien déposer des documents de ce type. Mais attention, je rappelle le propos introductif, ils doivent être à disposition des élèves qui sont directement concernés par les travaux. Donc, dans le cadre de la généralisation de l'ENT, j'attire l'attention de nos éditeurs là-dessus, il faudra bien définir qui a accès ou non à la ressource. Dans le cadre du cahier de texte numérique, on considère bien sûr que ce sont les élèves qui ont besoin de cette ressource qui vont le consulter, donc nous respectons la loi.
Et pour ce qui est des examens, Philippe, puis-je proposer une émission sur une liste de bac ou bien une liste d'oral d'histoire des arts?
Alors que tes élèves soient en collège pour l'histoire des arts, qu'ils préparent l'EAF, tout est prévu, tu peux incorporer des extraits d'œuvres dans un sujet d'examen, je dirais même dans une évaluation, dans une séquence.
Merci à tous les trois pour ce dialogue, certes austère, mais salutaire. La liberté offerte par les outils numériques et ce que nous appelons professionnellement liberté pédagogique ne doivent pas s'exercer au détriment de ceux qui sont à la source de la formidable richesse culturelle offerte par Internet, c'est-à-dire les créateurs et les artistes. Sinon, cette source risque de se tarir et nos élèves, comme nous-mêmes, seront victimes de nos usages irréfléchis.
Les lettres.
Pour éviter le risque d'utilisation malencontreuse, il existe précisément sur Internet des moyens qui permettent d'accéder en toute légalité à une mine de richesses culturelles. Pour nous limiter au domaine du son, Anne Burel a en effet trouvé pour notre rubrique Le site du jour, une adresse très intéressante par son contenu et ses modes d'utilisation. Littératureaudio.com. Anne, peux-tu nous servir de guide dans cette découverte?
Alors, je vais essayer. Alors, effectivement, il en existe d'autres, hein, des sites comme littératureaudio.com, mais c'est vraiment celui que moi, j'affectionne particulièrement, parce que, comme tu le disais, c'est une mine. Donc, pour être très clair, littératureaudio.com, c'est un site qui permet de récupérer et d'exploiter, dans la légalité et de manière totalement gratuite, des œuvres littéraires enregistrées sous la forme de fichiers son. Donc, on disait mine, puisque effectivement le site propose plus de 1700 livres audio libres de droit et que l'on peut donc télécharger au format MP3, c'est-à-dire le format le plus courant que connaissent d'ailleurs très très bien nos élèves. Donc, les textes ont été enregistrés par des lecteurs bénévoles et qui proposent vraiment des lectures de qualité. Alors, je disais 1700 œuvres que l'on peut retrouver classées par genre et par auteur, qui sont de grands classiques de la littérature française, mais aussi européenne, et de l'Antiquité, en traduction bien entendu, mais vraiment c'est une mine pour les professeurs de lettres modernes ou classiques. Alors, moi je sais que je l'utilise déjà de 4 façons différentes, ce site, donc je récupère les fichiers, et ensuite j'avoue que je m'en sers pour faire entrer mes élèves par exemple dans une œuvre, pour aussi mener une lecture analytique à l'oreille avec eux, pour également travailler la mémorisation des textes patrimoniaux, ou comme le rappelait Philippe tout à l'heure, on peut aussi accompagner les élèves qui ont des difficultés de lecture ou des handicaps grâce à ces fichiers sons. Alors, donc, voici les avantages que ça peut proposer dans le cadre d'un cours de français. Travailler avec un fichier son donc d'œuvres littéraires, ça peut permettre une entrée dans la lecture qui permet de vaincre les obstacles nombreux qui empêchent certains de nos élèves d'entrer dans un livre. Bon, il y a le manque de motivation, mais il y a aussi la longueur du texte, les problèmes de compréhension littérale, la non-connaissance du lexique ou quelquefois même la faible vitesse de la lecture silencieuse de nos élèves. Et puis, donner à entendre, grâce à l'expressivité du récitant, c'est aussi donner vraiment plus facilement accès au sens, donc des mots inconnus, effectivement, que les élèves vont pouvoir décoder grâce au contexte, mais aussi sur les intentions de l'auteur. Et puis, je trouve que c'est un excellent moyen de travailler la concentration et l'écoute. Alors, moi, je me suis rendu compte que les élèves ont une qualité d'écoute qui est nettement meilleure quand on leur fait écouter le fichier son que lorsque c'est le professeur qui lit, étonnamment. Et puis, ça a un avantage pour le professeur, c'est que pendant que les élèves écoutent, il a tout le loisir de les observer, de voir à quel moment ils réagissent et comment ils réagissent. Et dans le cadre de lecture analytique donc, que je mène à l'oreille, donc moi, ça me permet vraiment de revenir sur des moments où ils ont peut-être besoin d'une écoute supplémentaire. Alors, lecture analytique à l'oreille, c'est-à-dire qu'en fait, je la mène exactement de la même façon que si c'était un texte qui était donné à voir, avec des questions de langue, des questions d'interprétation, d'identification et d'interprétation, par exemple, de l'utilisation d'un temps. Donc, on parlait de mémorisation de textes patrimoniaux. Il m'arrive de leur confier les fichiers sons, ils les emportent à la maison et ils peuvent également donc s'en servir comme aide à la mémorisation de leur récitation. Alors, pour vous mettre en appétit, je vous ai apporté une petite surprise, quelques précieuses secondes de la rempailleuse, donc de Maupassant, que j'étudie avec les élèves en classe et que vous pouvez, si ça vous plaît, écouter ou télécharger dans son intégralité sur le site.
Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'avait jamais eu de logis planté en terre. Toute petite, elle errait, haillonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés, on dételait la voiture, le cheval broutait, le chien dormait, le museau sur ses pattes. Et la petite se roulait dans l'herbe pendant que le père ou la mère rafistolaient, à l'ombre des ormes du chemin, tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons en poussant le cri bien connu « Rempailleur de chaises !» on se mettait à tortiller à la paille, face à face ou côte à côte.
Merci Anne pour cet exemple saisissant. Il nous tarde vraiment de consulter le site que tu nous as proposé de concevoir de nouveaux parcours pédagogiques originaux à l'aide de cet outil prometteur. Je précise que Baptiste Voisin complète cette rubrique par un bonus audio consacré à une autre adresse, elle aussi très attractive, le hall de la chanson sur le site lehall.com, à écouter d'urgence.
Les souris et les lettres.
Et bien voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre 7e rencontre radiophonique. Une riche émission au cours de laquelle nous avons essayé de participer à notre façon à la construction d'une culture littéraire par l'utilisation du son. Cette fois encore, nous avons mis tout notre enthousiasme pour satisfaire vos attentes. Nous vous invitons donc à nous écouter et réécouter à l'adresse de la web radio. Vous pouvez même y poster vos commentaires et suggestions. Toute l'équipe autour de ce micro vous salue et vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle qui se fera en association avec l'Académie de Rennes et son IPR de lettres, Pierre Pilard. Si vous êtes prêts à nous retrouver, je vous dis à très très bientôt en notre compagnie sur la web radio.